J'ouvre en moi-même un théâtre où se joue un faux sommeil. Georges Bataille, la haine de la poésie. Avec Juliette Bernatché et Simon Dumas. Bienvenue à La haine de la poésie, une émission qui cherche à mettre en lumière un imaginaire collectif de la poésie, comme une façon qu'elle a d'être à la fois partout et invisible, ignorée même, mais jamais totalement absente de la vie de quiconque. Deux fois par mois, nous vous proposerons une rencontre avec une personne active dans la société, que ce soit sur le plan culturel, politique ou philosophique. Nous leur demanderons ce qu'est la poésie pour eux et quelle est la place qu'elle prend dans leur vie, et ce, même s'ils n'en lisent pas.
Aujourd'hui à l'émission, on reçoit l'artiste visuel et auteur Stéphanie Requin-Tremblay et l'auteur Paul Kazak. Stéphanie est artiste visuelle et auteur. Depuis 2005, elle est consciente qu'elle fait de sa vie une performance. Elle espère en secret qu'un jour on puisse reprendre tous ses projets d'expérience autobiographique pour en faire de beaux zines imprimés bien propres. Paul Kazak est né à Besançon, dans l'est de la France. Il vit aujourd'hui au Québec, où il est éditeur aux éditions de La Peuplade, chargé de cours à l'Université du Québec à Chicoutimi et auteur. Il a tout récemment été sacré lauréat du Prix littéraire des collégiens 2021 pour son roman « Ténèbres ». D'abord, Stéphanie, j'aimerais que tu nous parles de ta pratique artistique, d'abord en art visuel, mais aussi dans toutes les autres formes d'art que tu explores et que tu as déjà explorées par le passé.
C'est ça, moi, en fait, j'ai un parcours universitaire en art visuel, mais dans mes œuvres, tu sais, même, je me souviens depuis le début, là, tu sais, même au cégep, tout ça, le texte prenait quand même une super grande valeur, tu sais, dans mes œuvres. Ça a toujours été là. Tu sais, je me suis intéressée beaucoup au début aux photoromans. Puis à tout ça, fait que c'est tout le temps un peu dans le but d'intégrer visuellement le texte dans une œuvre. Moi, je fais beaucoup de collages, de trucs inspirés du web, de captures d'écran, d'affaires comme ça. Fait que je sais que c'est ça, puis surtout de plus en plus même j'essaie de mettre mes textes poétiques, tu sais, vraiment grand format dans mes expos, tout ça. Aussi, c'est un peu comme une réponse au fait que j'ai de la misère à être publiée, puis tout ça, là, tu sais. Au début, c'était comme... C'était presque... c'était en réaction à ça, où je me disais, tu sais, mes textes ne sont pas dans des livres, mais en tout cas, ils vont être dans mes expos, fait que, tu sais... En tout cas, comme exemple, celle que je préparais pour le lieu à Québec, que finalement, ça a été reporté. Tu sais, il y a un immense texte, là, c'est presque un recueil de poésie au complet, là, dedans, là, qui se déroule, c'est comme une espèce de manifeste. Fait que, tu sais, c'est ça, je pense que le texte, poésie, ça a vraiment toujours été là, puis même de plus en plus, là, tu sais. L'image commence presque à disparaître, puis le texte prend toute la place dans la salle d'expo, en fait.
Mais aussi, tu as quand même une démarche qui est éditoriale, dans le sens que tes œuvres d'art visuel sont reprises dans des livres, par exemple, que tu as auto-édité toi-même.
C'est vrai, tu as raison. On dirait que j'ai oublié cette bout-là. T'sais, moi, je travaille beaucoup genre dans l'urgence, fait que tu sais, faut comme j'ai de la misère à attendre, tu sais, même de. T'sais, si disons je soumets un manuscrit à une maison ou quoi que ce soit, d'attendre un an, deux ans, là, ça me fait chier. Puis faut que ça sorte là maintenant. Fait que d'où l'idée de m'auto-produire, en fait, là, tu sais. Puis aussi, ça fit bon avec mon esthétique et tout ça, là, tu sais, de faire des trucs qui sont pas nécessairement corrigés ou qui sont un petit peu plus. Boboche, là, bon, c'est plus cheap, là, si on veut, là. Fait que, tu sais, ça reste quand même dans mon esthétique, puis souvent, le livre que j'auto-édite, qui se crée dans l'urgence, il vit d'une manière physique, mais après, ça devient aussi, tu sais, souvent une matière à faire une expo dans une salle blanche, là, tu sais.
C'est quoi la dynamique entre les deux médiums, entre l'image et le texte? Est-ce que...
Est-ce que tu abordes le texte pour pour ses qualités visuelles aussi, le travail sur la typo, etc.? Comment est-ce que ça s'intègre?
En fait, de plus en plus, là, mais je te dirais qu'au départ, c'était vraiment comme le texte vient appuyer l'image, tu sais. On dirait qu'à chaque fois que je me dis que je vais juste écrire, disons, un recueil, ben là, je trouve que ça manque d'image. Puis si je décide de juste faire une expo de photos, là, je trouve que ça manque de texte. Fait que là, finalement, à chaque fois, les deux se répondent, puis mon cerveau, il fonctionne comme ça, puis finalement, ben, ce qui devient visuel, fonctionne comme ça aussi. Mais c'est tout ce qui est question typo, tout ça, moi, j'essaie quand même d'y aller au plus simple, là. C'est tout le temps très en arial, Times New Roman, là, tu sais, ben chienne, là, mais c'est ça.
Et toi, Paul, est-ce que j'ai rêvé ou t'as intégré de l'image dans des projets poétiques aussi?
Dans le
Ouais.
premier livre que j'avais fait, l'extincteur adoptif, j'avais mis peut-être 4-5 images dedans, ouais.
Je me souviens d'un diaporama que j'ai vu à la Chambre Blanche aussi.
Ah oui.
Ah ouais, c'est vrai.
Mais non, j'aime bien. Je trouve que c'est quand même l'idéal en plus de se remettre de la musique en plus, mais je trouve que des fois juste des mots, c'est pas assez. Là, c'est bien, enfin, je dirais, il y a un côté hérité, peut-être un peu conventionnel, de faire un livre de poésie qu'avec du texte en colonne, mais je pense que on peut. Je pense surtout depuis qu'on est avec Google. Moi, j'aime beaucoup Google Images ou YouTube, puis on a quand même le monde à la portée de CTRL-C, CTRL-V, donc pourquoi s'en priver, quoi?
As-tu le coutume de faire de la performance ou c'est un spécial pour nous à ce moment-là, là?
C'est pas ce que j'ai coutume de faire le plus, parce que je me sens un peu. Je viens pas de ce monde-là, puis je sais pas tellement quoi faire. Mais j'avais fait on va dire 4-5 choses comme ça, mais je pense que c'était aussi ma force de ne pas savoir quoi faire. Enfin, finalement, à la Chambre Blanche, j'étais surtout sous. Mais ça faisait, je trouve que ça faisait partie de mon objectif. Moi, j'ai un gros problème avec le théâtre. J'ai vraiment du mal avec l'illusion théâtrale et tout ça. C'est personnel, hein, c'est pas un problème théorique. Là, c'est moi,
Je
ça ne
comprends.
fonctionne pas. Et j'aime bien quand c'est pas trop stagé, quand c'est essayer de mettre un moment d'existence ou de vie. Ça permet un peu de désacraliser, en fait. Tu vois, bah, par exemple, la poésie ou la littérature, si tu arrives essayer de la faire, mais que ça soit naturel. Bon, là, il se trouvait que c'était une ambiance. La résidence a beaucoup tourné autour de l'apéritif, hors scène, donc il se trouvait que j'étais assez avancé. Mais sinon, c'est ça, essayer d'arriver un petit peu comme thème. La performance va essayer de mixer la vie puis l'art. C'est un peu ça que j'essaye de faire quand j'en ai fait,
Mais
puis
tu veux
j'aimerais bien.
parler aussi de ton projet avec Bang?
Ouais, c'est ça. Puis là, ben, j'ai un projet avec Bang aussi pour d'écriture plus conceptuelle, pour vraiment mélanger la Enfin, essayer de mélanger la vie et l'art, donc beaucoup plus sur moins de mise en scène, aller beaucoup plus dans le copier-coller, essayer d'abandonner même l'auctorialité. C'est pas forcément moi qui l'écris, mais j'étais là, il y avait les mots, puis les mots, ils appartiennent aussi aux gens. Enfin, c'est essayer de diluer la poésie dans la vie, en fait. Et
Mais ton testament.
ouais. Puis ouais, c'est ça. C'est pour ça que je me suis engagé via un
Ça, c'est
testament
bon.
chez le notaire, j'ai une pratique de, on va dire, de collage de textes qui doit être publié à ma mort, que je veux faire toute ma vie. Donc ça m'a permis de m'engager à la vie, à la mort avec ma pratique de collage. Puis du coup, c'est pas moi qui écris les textes non plus. Donc enfin, tout ça m'intéresse dans la poésie. C'était depuis plus très vite, je suis arrivé à abandonner. J'en ai pas beaucoup fait finalement d'écrire de poésie conventionnelle puis aller lire des textes de poésie à un micro. J'ai vite senti une limite pour moi-même et j'avais plus envie comme si la poésie c'était une noix puis de la casser puis de l'éparpiller un peu partout. Mais puis voilà.
Même, tu sais, quand on participait au festival de poésie de Trois-Rivières, au OFF, t'as pratiquement tout le temps fait des trucs avec ta guitare, puis c'était pas... Même si on était invité comme poète à lire des trucs, ta guitare était tout le temps là quand même. Mais même aussi le truc avec Folliculture, ta performance que t'as faite, puis tout ça. La performance, elle fait plus partie de ta pratique que tu penses, je pense.
Mm-hmm. Ouais, je pense, par rapport à la poésie, oui.
Ouais. Oui, puis je comprends la spontanéité de l'apéro, mais tu avais quand même préparé des images. Il y avait le diaporama qui accompagnait le... Donc ça, c'était c'est pré-apéro, là.
Oui, ben, j'aime bien l'idée, moi, de faire des conférences, mais qui n'est pas le format d'une conférence. C'est-à-dire essayer de... une fois, par exemple, j'ai essayé d'expliquer... Enfin, j'ai essayé de partager ce que j'avais compris de certains aspects de théorique chez Georges Bataille. Mais en proposant de fumer un joint avec l'auditoire ou des choses comme ça. Alors, ça peut paraître un peu adolescent, mais c'était aussi ludique. Et puis de casser l'autorité qui peut venir avec... quand on est proche du langage, souvent dans notre société, on est quand même en position d'autorité. Puis auteur, ben, auteur, ça vient du mot aussi. C'est la même racine que autorité, etc. Et donc, je trouvais ça plus intéressant, plus sympathique, en fait, de court-circuiter ça. Ouais.
Vous entendrez maintenant Kellogg's, une performance de Paul Kazak.
Kellogg's, Cornflakes, Kellogg's, CA. 1, 8, 8, 8, 8, 7, 6, 3, 7, 5, 0. Kellogg, Canada. 1, Mississauga. O, N, N, K, W, 5, S, 1. Kellogg, Corn, Lace, Sugar Wax. 3 grammes sugar, sorbet. 1 cup, 29 grammes. La mini-size. Serving suggestion, 760 grammes, corps 246, céréales, en large de chaud texture, 110 calories, 0 grammes, fat, 0% 170 mg, sodium, 703 grammes, sugar, daily value, 29 grammes, 6 ligos, simplement bon, no artificial, savon, or colour, sans arôme, color, artificiel, Kellogg's, Corn Flakes, nutrition, fat, valeur nutritive, servir, 1, cup, 29 grammes, portion de tasse, 29 grammes, amandes, servir, tenue par portion, céréales, oui, 1 demi, cup, 1%, mille, avec un demi, tasse, 1%, calories, 160, daily value, valeur quotidienne, fat, lipides, 0 grammes, 0%, 2%, saturation, 0 grammes, trans, 0 grammes, 0%, 2%, cholestérol, 0 mg, 0%, 2%, sodium, 170 mg, 7%, 10%, potassium, 50 mg, 1%, 7%, carbohydrates, glucides, 24 grammes, 8%, 10%, fibres, 0 grammes, 0%, 0%, sugar, 3 grammes, protéines, 2 grammes, vitamine A, 0%, 8%, vitamine C, 0%, 0%, calcium, 0%, 15%, iron, fer, 30%, 30%, canine, 45%, riboflavine, 80%, niacine, 8%, 10%, vitamine B6, 10%, 10%, folate, 10%, 10%, maltodextrine, 6%, 15%, amout, céréales, dans les céréales.
mélamine, diamine, hydrochloride, décalcium, pentothénate, iridocine, hydrochloride, folie acide, contient parler, ingrédients, mais contient ses sols, maïs, sucre, extrait de maïs, normal, sel, colorant, BH, vitamines, minéraux, fer, niacinamide, chlorhydrate de thiamine, des pentothénates de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, acide folique, contient des ingrédients de l'orge, peut contenir du soya, importé de paille, importé par Kellogg, Canada, 1, Mississauga, Ontario, LKW5S1, Kellogg, sucre essentiel, 3 grammes de sucre par portion, 8 tasses, 29 larmes, steak, depuis 1906, format familial, agrandi pour montrer la texture, présentation suggérée, 760 grammes, corps 246 céréales, 110 calories, 0 grammes, lipides, 0% sans 160 mg de sodium, 7%, 3 grammes de sucre, valeur quotidienne par 29 grammes, Kellogg, cornflakes. 2019, numéro 02, KLT 018-18-2.35, Pédifort, meilleur avant. Barclay Confectionnery Union, BCCGMA, Tobacco Worker and Grain Dealer, AFL, CEO, GNC. Discarton, il mettra 3% recyclable, paper clip, cette boîte est entièrement faite de fibres de papier recyclé, 760 grammes, Kellogg Storm Flakes. 2018, trademark of Mark de Commerce Kellogg Company, under licence by IT, des solutions Spark of Canada Inc. Not for sale outside Canada. Vente autorisée au Canada seulement. K1777352003. NLI 10151710641002225 et 3.
Stéphanie, je te relancerai sur la performance, sur ton rapport à toi, à la performance.
Ben moi, la performance, c'est plus le côté théâtral là, qu'on disait tantôt. Ça me gêne vraiment beaucoup, là, tu sais. Je pense qu'à chaque fois que j'ai essayé d'en faire, tu sais, je l'osais à la dernière minute parce que je suis trop gênée, mais finalement, tu sais, tout le monde me dit que mes trucs sont quand même très performatifs. Puis finalement, ben je suis quand même d'accord avec tout ça. Puis, ben, je pense que aussi depuis le début de ma pratique, là, maintenant, je suis capable de l'assumer, que c'est une démarche performative aussi quand même, parce que, tu sais, je parle beaucoup de ma vie, puis c'est toujours... j'essaie toujours de faire des projets qui sont soit en lien ben, avec ma vie, ou si ma vie est trop plate, ben, je vais provoquer des trucs pour les vivre, tu sais, un peu comme, ben, tu sais, je pense à Sophie Letourneau, tu sais, avec, ben là, c'est ça, je pense à Chasse à l'homme, mais même ses autres projets aussi, c'était ça aussi, puis, tu sais, Maud Veilleux, tout ça, tu sais, moi, c'est des démarches d'écriture qui me parlent beaucoup, puis là, ben, bon, c'est plus en littérature, mais en art visuel, bon, Sophie Cal, tout ça, tu sais, c'est vraiment des trucs qui m'inspirent. Puis, tu sais, moi, en fait, je documente ma vie, mettons, ça a l'air gros, là, dit comme ça, mais tu sais, depuis que j'ai 13 ans, je savais même pas encore que j'allais garder tout ça puis faire de quoi avec ça. Fait que, tu sais, on peut dire que c'est de la performance, là, je sais pas trop.
Mm-hmm. Ben oui, c'est une performativité qui est pas physique ou... Ni théâtral, ouais.
Mm-hmm. Ouais, je pense que c'est l'idée, c'est d'ouvrir, parce que ben moi, j'aime quand même vraiment pas mal la performance, puis j'aimais beaucoup le festival Art Nomade qui était au Saguenay. Puis souvent, ben, on a l'impression que c'est juste un moment bizarre où quelqu'un va se casser des œufs sur la tête, mais c'est plus global que ça. Ça peut être vraiment, justement, pour moi, c'est vraiment plus allié avec le mélange de l'art et de la vie. Je pense que mon credo en art, c'est la phrase d'un artiste appelé Robert Filliou qui dit « L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art.
Ouais, »
Moi, je pense que ce serait mon objectif, c'est de rendre la vie plus intéressante on a beau dire je suis ceci, je suis cela, je trouve qu'on ne touche pas vraiment à sa vie que si on l'implique d'une certaine façon qui fait qu'elle va changer pour le mieux, pour le pire. Puis ça prend, on prend plus la conscience de ce qu'est du coup une vie, être un être vivant, etc. Puis ça, c'est quelque chose, il n'y a pas de vie qui n'est pas... le fait d'être vivant et conscient, c'est quand même absolument incroyable et phénoménal.
Et là, donc ici, on entend la performance comme une forme d'engagement du personnel dans l'artistique, une mise à risque aussi qui peut être physique, mais aussi émotionnelle, une exposition de soi. C'est l'inverse de la distanciation. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça?
Bah oui, moi je suis... Ouais. Ouais, ouais, ouais.
Mais je pense que ça dépasse vraiment l'intégration de sa vie dans une démarche artistique. Il y a une mise en danger. Puis l'exemple de Maud-Veilleux, on le voit bien, tu sais, dans son travail. Il y a une mise en danger émotionnelle, sociale, parce que à brouiller les pistes entre ce qui est l'œuvre et ce qui est la vie personnelle, en faisant volontairement, avec toutes sortes de modus operandi, puis de procédés artistiques, comme par exemple s'asseoir sur un banc de parc puis attendre que les gens viennent nous parler puis intégrer ça à une œuvre, raconter sa vie amoureuse, personnelle. Il y a une mise en danger.
Moi, ce que j'espère, c'est que la poésie traditionnelle en texte, elle puisse rejoindre ça, qu'on ne sépare pas trop, c'est que l'un et l'autre existent, ont leur raison d'exister, sont appréciables, mais... Puis c'est difficile, toi, en travaillant dans le milieu de l'édition, ce qu'on fait, c'est de tout le temps transformer ça en papier puis en encre. Mais en même temps, le fantasme qu'on a, c'est comment le papier puis l'encre pourrait soit inciter les gens à changer, soit donner envie, etc. Ou alors comment on peut se faire le lien. Là, j'ai pas de réponse, mais moi, c'est le gros problème, quoi. Dans le livre, c'est comment, à partir du livre, sortir de la vie, je pense.
Ben, c'est tout le côté de archiver aussi la performance. Mmh. C'est ça, je pense, qui m'agace un peu, parce que c'est vraiment difficile. Ça se met pas dans un livre, ça se conserve mal. Sinon, faire une vidéo, là, si tu fais une vidéo, ben là, c'est déjà, on rentre déjà dans autre chose.
On touche à plusieurs choses intéressantes, parce que tu sais, dans la... Je dirais, l'imaginaire de l'artiste collectif qu'on peut avoir, c'est on crée une œuvre, l'œuvre rencontre un succès, on devient un artiste reconnu, puis peut-être même qu'on... En tout cas, et puis là, on peut avoir différents échelons là-dedans. Et là, ça pose plusieurs questions. Donc, si on est dans une démarche artistique et personne ne le sait, et puis, j'aime bien l'exemple de la performance parce que c'est assez proche de la poésie. Donc, il y a 15 personnes dans le bar. Je fais une performance qui n'est pas divertissante, dont le but n'est pas de divertir. Il y a 15 personnes qui en sont témoins. Il n'y a pas d'archives. C'est un peu comme publier 150 livre de poèmes en 150 exemplaires, dont 30 seront vendus et la balance sera donnée à des amis. Mais en même temps, je suis convaincu de l'utilité de la poésie. Pour tous, en fait. Donc, la question, c'est à quoi ça sert de se mettre en danger dans un processus artistique? Qu'est-ce que ça apporte aux autres?
Mais moi, je pense qu'il y a un véritable enjeu avec la démocratie. C'est-à-dire que si la démocratie, ce serait donc les gens peuvent donner leur avis, mais le problème, c'est que est-ce que la vie, il va être formaté, donc il peut y avoir un feedback de la société qui fait que tout le monde pense un peu pareil. Mais si par exemple tu travailles dans ton coin à essayer de justement par des gestes performatifs ou comme ça, ou par même juste avoir la conscience que ça pourrait être une performance, enfin, bref, je pense que ça te permet de te réapproprier une certaine façon de qu'est-ce que ton existence. Et en ce sens-là, peut-être être à même de savoir, d'avoir une voix plus particulière pour participer à la vie démocratique, à la vie citoyenne, tout simplement à la société. C'est-à-dire que ça permet d'affiner ou d'aiguiser ton propre sens de l'existence. Puis souvent, quand on aiguise son propre sens de l'existence, je pense pas que ça va vers la haine ou la peur. Enfin, souvent, ça va vers une plus grande compréhension de soi, etc. Ce qui, globalement, permet d'être plus tolérant ou de connaître ses défauts, etc. Alors, je dis pas ça pour moi, hein, moi j'en suis très loin, mais c'est ça, je pense qu'il y a, quelque chose de l'ordre de penser par soi-même et puis aussi de vivre. Parfois aussi, ça permet de penser sans mots. Je pense que de simplement penser, je fais un geste, ce geste-là a une signification sur ma vie. Et ma vie, c'est quelque chose que j'aurai certainement qu'une fois, j'ai la certitude de mourir, etc. Parce que ça peut être quelque chose tout de suite qui devient immense quand on réfléchit à ça. Donc, on peut prendre conscience peut-être de ça, tout simplement. Alors sinon, on peut être aussi sur un ronron. Hein, et puis, il y a aussi le fait qu'on ne demande pas la reconnaissance forcément, mais c'est très très dur de pas demander la reconnaissance. Hein, c'est...
Ah, mais on le fait avec les réseaux sociaux.
Ouais, ouais. Mais les gens qui invisibilisent vraiment leur ça, c'est très très dur. Moi, je pense que j'en serais incapable. Enfin, il y a des choses que je fais pour moi, mais sinon, il y en a aussi beaucoup que je partage. Je pense qu'il y a aussi remettre en cause l'idée du travail dans ça. C'est parce qu'on fait pas une chose pour obtenir quelque chose. Un capital symbolique ou monétaire. Ça, c'est. Ouais.
Et toi, Stéphanie, tu disais tout à l'heure que tu archives ta vie depuis que tu as 13 ans. Pourquoi? Et quel a été le point de départ de ça, là?
Quand j'avais, mettons, 11-12 ans, je voulais être punk. Puis là, ma mère m'avait offert un livre là, qui s'appelle Enfermé dehors, qui est. Une série de photos avec un punk de la rue, puis un comédien. Puis là, le comédien écrivait un texte par rapport à tout ça. Puis là, ça a comme allumé de quoi dans ma tête. Puis j'ai commencé à faire des photos argentiques avec des petits appareils un peu cheap. Puis moi, je faisais pas de musique. Fait que j'ai commencé à prendre des photos pour attirer l'attention, puis pour pouvoir coucher avec des mecs, là, des bennes. Fait que ça a commencé là. Ça a duré, jusqu'à... aujourd'hui, je trouve que ça a perdu son sens parce que je fais moins d'argentique, puis on est plus dans les cellulaires et tout ça. Mais, je le fais encore d'une autre manière, là, mais... Puis là, avec le recul, avec aussi, mon exposition que je suppose de faire au lieu, là, tu sais, si la pandémie, le confinement peut se terminer. C'est ça, c'est une rétrospective en fait de tout ce travail-là que j'ai archivé précieusement, que j'ai tout gardé, puis que là j'ai envie de montrer.
Donc toi Stéphanie, ton image était plutôt documentaire au départ, donc t'es partie, puis à un moment donné elle a évolué, puis quand est-ce que tu as commencé à intégrer du texte?
C'est surtout, en fait c'est lié à la musique là, carrément là. C'est même... Je me suis rappelé un truc qui était vraiment drôle, là, c'est que, tu sais, genre même mon premier fanzine, je disais même pas, c'est en 2012 quand même, puis je pensais même pas que c'était de la poésie, je disais que c'était un rap. Parce qu'on dirait que c'est tellement collé à la musique, moi, mes textes, que je disais même pas poésie, mais pourtant, tu sais, je sais c'est quoi la poésie, puis tout ça, tu sais. Puis c'est ça, puis tu sais, moi, la musique, ça fait partie de mon univers... visuel, ça fait partie de ma vie, puis je pense que ça vient de là, puis ça va toujours être ça. T'sais, autant dans la prise de vue documentaire, dans mes activités, dans ma vie, dans mon écriture, la musique là, qui est pas mal au cœur de pas mal toute ma démarche, dans le fond, puis mes relations, puis ma vie, puis tout ça.
Une production de Rhizome qui remercie CKRL et la Ville de Québec via son entente sur son développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec.